Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Geek avec, comme chaque semaine, Marjorie Glénisson. Salut Marjorie.
Salut à tous.
Une fois n'est pas coutume, est-ce que tu peux nous présenter le thème de cette émission ?
Eh bien, aujourd'hui, nous recevons des auteurs qui font de très belles choses et on va essayer de leur demander ce qu'ils font exactement.
Alors, les auteurs, justement, qui sont là, il y a 2D qui vient pour Loup-Garou, une BD dont vous êtes le héros. Bonjour.
Ouais, bonjour.
Boutanox, une BD sur Sherlock Holmes et Moriarty, ça va être très intéressant aussi, ça.
Bonjour.
Et puis enfin, Rémi Bostal. Alors, vous qui êtes en Normandie, vous allez adorer, je suppose, ces contes et légendes normandes. Et puis aussi les contes de Bric et Broc. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, très rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner, j'ai dit que vous étiez auteur, une petite précision sur votre métier exactement, si vous êtes scénariste, dessinateur, auteur, l'un, l'autre, les deux, les trois, compositeur de musique aussi.
Moi je suis dessinateur sur la bande dessinée dont vous êtes le héros, Loup-Garou, mais je suis aussi scénariste, on va dire, à mes heures perdues en fait.
Boutanox.
Alors moi pour ma part, comme Damien, je suis juste dessinateur sur le Sherlock Holmes, mais par ailleurs je suis aussi scénariste sur d'autres séries, notamment Vlad et le Manchot aux éditions Comic Strip, et puis sur d'autres projets qui n'ont pas forcément été publiés, et en parallèle de mon métier d'auteur et illustrateur, je travaille aussi dans un centre lecture avec des enfants, donc autour de la littérature jeunesse principalement.
Et Rémi Bostal.
Moi aussi, dessinateur à la base, scénariste de temps en temps, et aussi énormément de miniatures ou d'illustrations pour les plateaux, les jeux de société et compagnie. J'aime beaucoup faire des trucs assez diversifiés.
Alors moi, j'ai une question qui me taraude l'esprit depuis tout à l'heure. Sherlock Holmes et Moriarty, Boutanox, vous avez le look de l'un ou de l'autre, plutôt de Sherlock Holmes d'ailleurs. Est-ce que vous avez choisi d'adopter le look de Sherlock Holmes parce que vous deviez dessiner Sherlock Holmes, ou est-ce que c'est l'inverse, ou est-ce qu'il n'y a aucun rapport ?
Bah, disons que j'avais déjà plus ou moins le même genre de dégaine avant de dessiner ce projet. Bon, après, j'ai toujours été un grand, grand fan de Sherlock Holmes depuis que je suis gamin. Je pense que c'est les premiers bouquins que j'ai lus, c'est Les Aventures de Sherlock Holmes. Alors bon, ça m'a peut-être un peu influencé inconsciemment, effectivement, dans ma dégaine.
Ça compte, je suppose, dans le choix d'un projet, non pas le look, bien sûr, mais vos goûts personnels. Est-ce que vous seriez capable, les uns les autres, de dessiner pour n'importe quel projet, parce que, bah voilà, il faut bien manger aussi, ou est-ce que c'est, voilà, on fait un projet parce que d'abord on y croit, d'abord on l'aime.
Je dirais que oui, c'est un plus de pouvoir travailler sur un projet sur lequel on a des affinités. Après, comme vous avez dit, hein, il faut bien manger. Néanmoins, c'est vrai que moi, en tant que dessinateur, je suis j'aime un peu tout. Donc dans ce que je lis, dans les films que je regarde, je suis j'aime un peu tous les styles. Donc je pourrais aller un peu n'importe où, enfin néanmoins avec quelques réserves, voilà, genre, les trucs à l'eau de rose, romantique, tout ça, c'est peut-être pas trop mon domaine, mais moi à la base, on m'a fait venir sur le projet Loup-Garou parce que l'éditeur et le scénariste estimaient que ça correspondait à mon style, et voilà, c'est vrai.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, et puis même si on tombe sur un projet qui à la base nous intéresse moins, pas des masses, essayer de trouver quelque chose dedans pour rebondir sur le sujet, pour nous donner envie, quoi. Si on dessine un petit truc rigolo à l'arrière-plan, ou rajouter un petit détail qui n'était pas prévu, qui va nous donner plus d'intérêt à dessiner le projet, parce que oui, il faut bien manger. Donc,
Alors vos projets chacun, on commence avec vous, Rémi, contes et légendes normandes. Alors déjà, petite précision, est-ce que c'est normande de Normandie, ou est-ce que c'est normande au sens large, on va dire viking ou les hommes du Nord, ou voilà.
Alors non, on est quand même concentré sur la basse Normandie, la haute Normandie. Que ce soit sur Dieppe, sur Rouen, sur Caen, on reste local. C'est une maison d'édition de l'Eure-et-Loire au départ, donc on élargit au fur et à mesure le nombre de contes, de légendes qu'on peut trouver. Toujours d'après des vraies histoires, hein. On n'invente pas de nouveaux contes et légendes, c'est toujours des bases trouvées dans des vieux bouquins, dans des recueils.
Un petit exemple d'une légende comme ça, ou d'un conte très très court, hein, parce qu'évidemment...
Très, très court. Eh ben, une que j'ai fait dans le tome 5, c'est sur la base de l'appellation gargouille. Et en fait, ça, on parle des gargouilles de la cathédrale de Rouen. Et en fait, on explique qu'à la base, il y aurait eu un dragon d'eau qui attaquait les villageois, et qu'un prêtre serait allé abattre avec des villageois. Et en coupant la tête de la gargouille, elle aurait été attachée au mur de la cité. Et en fait, de là serait venu le fait de garder des gargouilles en hommage au dragon.
Et ben voilà.
Voilà.
Sherlock Holmes et Moriarty, ils sont associés bout à nox dans votre ouvrage. C'est pas la façon classique de les voir en général.
Non, effectivement, Moriarty, c'est l'antagoniste de Sherlock Holmes, même si finalement, dans l'œuvre de Conan Doyle, il a un rôle assez mineur. Il apparaît que dans une, il apparaît réellement que dans une seule nouvelle, dans le dernier problème. Bon, qui est la nouvelle où c'est celle où Conan Doyle voulait faire mourir Sherlock Holmes pour s'en débarrasser, se concentrer sur d'autres bouquins. Mais c'est vrai que c'est devenu le grand méchant, le seul qui soit l'égal de Sherlock Holmes. C'est pour ça qu'il a eu autant de succès, qu'il est toujours cité comme ennemi numéro un de Sherlock Holmes, comme Rastapopoulos est l'ennemi numéro un de Tintin, alors que finalement il y a plein d'autres méchants qui apparaissent. Là, c'est vrai que bon, pour le coup, c'est un choix qui n'est pas le mien, parce que moi je suis juste dessinateur, le mérite en revient à Ced, le scénariste. Et c'est vrai que dans les deux précédents opus de Sherlock Holmes, Moriarty est présent en tant qu'antagoniste. Et là, ce qu'il trouvait intéressant, j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui, c'est de les faire travailler ensemble, un peu contraint et forcé. Mais vraiment les deux cerveaux absolument géniaux qui se mettent ensemble pour résoudre des énigmes, et surtout donner au lecteur, puisque c'est une BD dont vous êtes le héros, donc c'est le lecteur qui mène l'enquête en fait, qui fait les choix et qui s'oriente dans l'histoire en fonction de ses déductions, c'était donner l'occasion au lecteur d'incarner soit Sherlock Holmes, soit le docteur Watson, soit Moriarty. Donc on a la possibilité, en fait, en lisant le bouquin, d'incarner le méchant et donc de faire des actions que Sherlock Holmes ne ferait jamais, comme menacer les suspects à coups de poignard, faire pression. Voilà, ça donne un petit côté un peu différent, une expérience assez différente que, pour le coup, je trouve très intéressante.
Marjorie, c'est quelque chose qu'on a souvent, finalement, ça, dans la culture geek, parfois, le héros et son méchant associé qui s'associent. T'as quelques exemples, je pense notamment aux X-Men, où on a Professeur Xavier qui va s'allier à Magneto parce qu'il y a un méchant qui est encore plus gros que Magneto. C'est quelque chose d'assez courant dans la culture geek, ça.
Oui, très courant. Les méchants ont plus leur place dans la culture geek, d'ailleurs, que dans n'importe quel autre domaine. Si on voit un film policier, le méchant est le méchant et on est bien content quand il meurt à la fin. Mais dans la culture geek, c'est vrai que souvent un méchant n'est pas totalement méchant. Il est méchant pour certaines raisons, mais pas pour d'autres. Il peut retourner sa veste très facilement. C'est un peu plus complexe, mais en même temps, c'est un peu plus sympathique à lire.
Et alors les loups-garous, qu'est-ce qui se passe avec les loups-garous ?
Dans la bande dessinée dont vous êtes le héros, on incarne un jeune magicien, un apprenti magicien, qui, dès le début de l'aventure, se fait mordre par un loup-garou. Et du coup, qui est amené à se transformer. Et par-dessus ça, on va dire, il rencontre une autre famille de loups-garous. Au début, on ne sait pas trop si, s'ils sont bons ou mauvais. Et donc là, en fait, à un moment, comme c'est nous le personnage, on se rend compte que les loups-garous, qui à la base font peur aux gens, sont plutôt un clan, on va dire, comme les humains, c'est-à-dire avec des bons, des mauvais. Et voilà quoi.
Comment est traduit le cycle de vie des loups-garous ? Parce que dans l'iconographie classique, hein, le loup-garou, il devient un loup-garou, enfin il se transforme en loup-garou poilu et tout méchant à la pleine lune. Est-ce que il y a eu un moyen, une astuce qui était trouvée pour dire là on peut être humain, là par contre c'est loup-garou, là vous redevenez humain parce que le temps passe et qu'il y a la pleine lune qui s'est levée ?
Ouais, alors tout à fait. Alors je vais pas spoiler non plus, mais en effet, le personnage a à un certain moment dans l'aventure, a la possibilité de se transformer quand il veut. Néanmoins, il y a un système de points, de pouvoir, donc il faut aussi qu'il ait les points qui correspondent pour pouvoir le faire. Et c'est expliqué dans le livre, il y a une astuce, enfin en tout cas, il y a un personnage qui a trouvé une façon pour que les loups-garous puissent se transformer quand ils veulent.
Alors on en parlait tout à l'heure sur ce festival des imaginaires ludiques, il y a le casque de réalité virtuelle, le HTC Vive en bas. Il y a de plus en plus de choses autour du jeu vidéo aussi qui proposent aux joueurs de s'immerger. Malgré ça, ces livres dont vous êtes le héros, ces BD dont vous êtes le héros, j'ai l'impression que non seulement ils continuent à marcher, mais il y a un vrai renouveau. Comment vous expliquez ça, le fait que il suffit de mettre un casque sur ses yeux pour se plonger dans une autre réalité, dans une réalité virtuelle, et incarner un personnage, mais qu'en même temps, on a envie de continuer à le faire en prenant un bouquin, en prenant une BD.
Alors, en effet, après avoir essayé le casque, c'est difficile de répondre. Je comprends pas, vraiment. Je pense que c'est vraiment deux choses différentes. C'est deux aspects, c'est vraiment deux types de jeux complètement différents. Et je pense que le temps de jeu, l'immersion, se passe pas de la même façon. Donc, pour moi, c'est deux univers qui peuvent cohabiter. Peut-être pas cohabiter, mais qui sont tellement différents que ça pose pas de problème. il n'y en a pas un qui va faire de l'ombre à l'autre, je pense.
Oui, bah c'est, disons que c'est un peu le même débat qu'il y a sur, entre le jeu de société et le jeu vidéo, ou le, je dirais même entre le cinéma et le livre. Pourquoi est-ce qu'on continue à lire des bouquins alors que la même histoire, surtout, il y a beaucoup d'adaptations de bouquins en film. Pourquoi est-ce qu'il y a des gugus qui s'amusent à lire Le Trône de Fer ou Le Seigneur des Anneaux ou quoi que ce soit, il y a plein d'exemples, alors qu'ils peuvent en deux heures s'éplier, on le voit au cinéma et puis et c'est marre. Parce que c'est vraiment deux expériences qui sont totalement différentes, qui apportent, je veux dire, un bouquin, on peut le lire dans le métro, on peut le lire au lit, tout ça, voilà, même s'il y a une panne de courant, on peut quand même le lire.
C'est vrai que le HTC Vive dans le métro, avec la tour, l'alimentation électrique, le fil, etc.,
ouais,
le casque,
les mouvements,
c'est moins facile.
Les sessions de tir à l'arc sur la ligne 13 à Paris un matin, à mon avis, là, il y a moyen de se faire quelques ennemis quand même, de faire quelques borgnes aussi.
Un peu votre carrière, votre parcours avec Marjorie, du coup, qui attrape le micro. Et j'allais se poser sa salve de questions sur vos inspirations, votre parcours, etc.
Comment ça vous est venu de dessiner ? Comment vous en êtes arrivé à choper un crayon, une feuille et à dessiner des BD ou n'importe quel type de dessin ?
Bah en fait c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent quand comment t'as appris à dessiner, quand est-ce que t'as commencé à dessiner. En fait je pense que c'est pareil pour mes collègues, c'est comme tous les gamins, j'ai dessiné à partir du moment où j'ai eu l'âge de tenir un crayon. Tous les gamins dessinent, c'est juste que nous on a continué. Bon, en tout cas j'ai continué à dessiner, souvent tous les gamins dessinent, hein, on s'est dessiné avant de savoir écrire. Et bon, au bout d'un moment, arrivé à l'adolescence plus ou moins, bah, les gamins ils commencent à se rendre compte que bah, en fait ça suffit plus leur dessin. Les enfants ils ont une approche très simple du dessin, ils ont une approche quasiment cubiste du dessin, c'est-à-dire ils dessinent pas les choses comme ils les voient mais comme ils les savent. C'est une table, ça a quatre pieds, donc ils vont faire quatre pieds et ils vont la faire carrée, ça ressemble il y a absolument pas de perspective, rien, mais ça leur va. Tandis que à l'adolescence ils commencent à se rendre compte que bah non, finalement entre ce que j'ai dans la tête ou ce que je vois et ce que je réussis à représenter, bah ça fonctionne, c'est pas pareil, ça fonctionne pas, et bah c'est quand même beaucoup de boulot de réussir à perfectionner son trait, tout ça. Donc la plupart des gens arrêtent de dessiner. Nous bah je sais pas, soit parce qu'on est plus têtu, soit parce qu'on avait moins d'amis ou moins de vie sociale. Non, on a continué quoi. En tout cas je parle pour moi, mais j'imagine que c'est un petit peu le même type de...
Non, vie sociale je sais pas, mais en cours de maths bon bah on dessine quoi, on continue clair. À dessiner dans les autres matières, et finalement on continue à dessiner quoi qu'on fasse. Dès qu'on a un crayon ou un bout de papier, bah on a les mains qui glandent et c'est parti quoi. On fait un crobar, ça continue. Ouais, des enfants qui arrêtent, puis nous je pense qu'on a toujours dessiné depuis le départ, on n'a jamais stoppé quoi.
Ouais. Bah voilà, ouais, c'est plus facile d'apprendre à dessiner quand on est séquestré dans une chambre jusqu'à l'âge de 16 ans.
Et sans internet. sans internet.
Alors j'ai un peu honte de vous le dire, mais je dessine un petit peu aussi. Mais alors moi, j'ai pas votre talent. C'est-à-dire que quand je dessine, c'est une activité qui demande du travail. C'est-à-dire qu'il faut que je sois hyper concentré. J'ai pas ce réflexe de dire, ah, un bout de papier, un bout de crayon, hop, je dessine. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'il y a cette différence-là, que tout le monde peut dessiner. Finalement, dessiner, c'est pas très, très compliqué. Après, on le fait avec plus ou moins de talent. Mais pour certains, ça prend du temps. C'est un effort qui doit être vraiment précis, comme si on devait faire une division en maths ou comme si on devait jouer un morceau sans être quelqu'un qui a un talent de musicien. Et puis il y a des gens, j'ai l'impression un peu comme vous, pour qui le dessin c'est presque une seconde nature. Alors après, n'hésitez pas à me contredire. Hein.
Ça dépend des sujets en fait, parce que si on a un bout de papier, on va dessiner un peu toujours le même genre de conneries, un petit gribouillou, un truc rigolo. Dès qu'on a un sujet un peu plus compliqué, ça peut être douloureux. Il y a des trois trucs qui ne veulent pas sortir, on a une deadline pour le faire, ça ne marche pas, on n'en est pas content plus que ça. Ce que je dis souvent, c'est qu'entre ce qu'on a dans la tête et le papier, il y a notre main. Et on a une image mentale de ce qu'on veut faire, on le sort. C'est pas ce qu'on voulait, les gens font, ah, c'est pas mal. Ouais, mais c'est pas ce que j'avais pensé au départ. On le refait quatre fois, c'est toujours pas ça. Mais si ça marche, ça marche. Mais parfois, ça sort pas facilement. Hein.
Comment vous procédez justement? Est-ce que vous avez une construction du dessin d'abord qui est et puis après, on rajoute les détails? Ou est-ce que directement, vous avez l'image en tête et vous pouvez commencer à tracer les traits qui seront presque définitifs dès le début? Parce que je sais qu'il y a un peu les deux processus. Il y a certains dessinateurs qui arrivent directement à se dire oui, je visualise une moto, très bien, je commence par la roue, après, je fais le pot d'échappement, après, je fais la selle, machin. Et au final, la moto, elle marche, elle est cohérente, elle est en perspective, les traits sont nickel. Mais c'est pas tout le monde, hein, on est d'accord.
Ça dépend du sujet, encore une fois, si c'est la moto, et ça va dépendre pour qui on le fait. Si c'est une moto, c'est quelle moto? Donc, alors, recherche de moto, trouver le modèle que le client ou que la personne veut voir. Genre, j'avais demandé une comme ça. Donc, déjà, la base, la forme, d'accord, le mec sur la moto, on le fait. Et après, il y a une phase de recherche, détail de la forme de la moto qui peut être plus compliquée. Il y a une grosse phase de réflexion. Moi, à chaque fois que j'ai un projet, un machin, je touche à rien tout de suite. Je fais d'accord, je le digère pendant 3-4 heures et après je vais faire ah ça y est, ça sort quoi. Mais au départ, si je le prends d'office, je vais faire c'est rare que ça sorte dans les 5 minutes.
Il y a aussi un temps de réflexion sur la mise en scène parce que bon, bah voilà, par exemple, pour en revenir à une moto, en effet, il y a la documentation et puis pendant la réalisation d'une bande dessinée, c'est jamais juste bon, bah on dessine la moto pour la moto. Il y a comment on la met en scène, quel cadrage va nous plaire à dessiner, et puis visuellement, essayer de trouver des.
C'est très proche la BD, j'ai l'impression, à la fois de la photo et encore peut-être même plus du cinéma, avec cette idée justement de dire il y a un cadre, il y a des lignes directrices, il faut que le. Alors en plus, contrairement au cinéma où on peut faire des mouvements avec la caméra où les objets se déplacent, vous devez induire le mouvement avec l'ordre des cases, avec la position des objets dans la case, que ça rentre à gauche, ça rentre à droite, etc. Et pareil, toutes les valeurs de plan qu'on peut entendre sur le cinéma, vous avez ces mêmes contraintes finalement.
Bah, c'est vrai que souvent on a tendance à un peu rapidement à imaginer que la BD ce serait une espèce d'enfant bâtard de la littérature et de l'art graphique. Finalement, c'est beaucoup plus proche du cinéma. C'est des techniques, comme tu dis, de cadrage. Après, on n'a pas le mouvement, mais le mouvement, finalement, il se passe entre les cases. C'est le truc qui est la base, finalement, du fonctionnement d'une bande dessinée. C'est que c'est le lecteur qui va amener lui-même le mouvement dans sa tête entre les cases, dans l'espace. Entre les cases, c'est ce qu'on appelle l'ellipse. Il y a un très très bon auteur que je recommande toujours, qui a écrit un excellent bouquin sur la bande dessinée, qui s'appelle Scott McCloud. Il a écrit un bouquin qui s'appelle L'art invisible, et il définit la BD comme un art de l'invisible, justement parce que tout ce qui se passe dans la BD n'est pas montré, finalement. C'est le lecteur qui l'apporte. Et il donne cet exemple de montrer un personnage qui court après un autre avec une hache en disant je vais te tuer, et à l'image d'après on voit un plan plus loin, on voit un plan d'un immeuble avec un hurlement qui sort d'une fenêtre, et Scott McCloud dit c'est vous qui avez tenu la hache et c'est vous qui avez tué ce personnage, vous êtes complice parce que je n'ai à aucun moment montré le meurtre, il s'est passé dans votre tête, il s'est passé dans l'ellipse. Donc finalement c'est ça le mouvement, l'aspect cinématographique, l'aspect mouvement de la bande dessinée, il se passe à cet endroit là en fait,
c'est presque cette ellipse, c'est presque le hors champ en cinéma, effectivement, ce qu'on ne voit pas, alors parfois parce qu'on n'a pas les moyens de le montrer ou pas le temps de le montrer. Je pense qu'en bande dessinée c'est une histoire de temps aussi, c'est-à-dire qu'une BD c'est combien, c'est 50 pages, 60 pages à peu près, à la louche, ouais.
Il y a le format classique album, c'est 48 planches, mais après voilà. Ça varie beaucoup maintenant avec ce qu'on appelle les romans graphiques, donc c'est souvent des BD qui sont beaucoup plus longs, plus épais.
Mais à chaque fois qu'on augmente le nombre de cases, le nombre de planches, ça augmente le coût aussi. Donc il y a cette histoire économique qui est de dire mon histoire, je peux pas me permettre de raconter une scène de bagarre sur 8 planches, sinon c'est un peu compliqué. Donc voilà, il y a ces contraintes là j'imagine en tant qu'auteur qui sont importantes. C'est quoi votre cauchemar et votre dessin favori justement en BD, si vous deviez là à l'instant dessiner un truc, vous avez 30 secondes pour le faire, le truc facile que vous aimez faire, qui vous embête pas?
Dessiner une fille nue, par exemple.
Ça marche?
Un visage, moi j'aime beaucoup les visages, imaginer un bonhomme, lui faire une expression et un visage de face ou de trois quarts.
Une tortue ninja.
Et alors le cauchemar dans l'autre sens, le truc que voilà, quand vous savez que vous devez le dessiner, vous y prenez 3 semaines à l'avance parce que vraiment vous savez que ça va être pénible.
Un cheval.
Un cheval ?
C'est chiant les articulations.
Le cheval, c'est le cauchemar de tous les auteurs BD.
Chevaux, bovins, enfin, dès qu'on fait un cheval.
Un cheval nu ?
Non, moi j'aime bien les chevaux.
Sur un cheval.
Non, je sais pas, je dirais un Pikachu ou quelque chose comme ça, quoi. Un Pokémon ou. Voilà.
Un truc un peu manga ou un.
Souvent des enfants qui nous demandent voilà, dessiner des.
Dessine-moi un Pokémon.
Voilà, un Pokémon.
Dessine-moi un Pokémon de garou.
Je ne connais pas donc.
C'est vrai que ça, ouais, je rejoins ça aussi, le côté dessiner un personnage que j'ai pas créé et où je vais devoir me coller sur un style que voilà, quand les gamins ils me demandent un Spider-Man ou un Pikachu ou un truc comme ça, non, c'est moi qui l'ai inventé, donc je vais pas le dessiner.
Fais-moi Obélix, Obélix, maîtrise pas des
masses. Je pourrais jamais le dessiner mieux que Uderzo, de toute façon, donc aucun intérêt. Et un cheval. Et un vélo de trois quarts, c'est super pénible les vélos.
Un vélo de trois quarts.
Les vélos, c'est terrible aussi. C'est chiant, les rayons.
Les motos, ça va, mais.
Ça vous intéresserait un jour, justement, si on proposait de reprendre quelque chose de mythique au niveau de la bande dessinée, de mettre les chaussures du Derzo justement ou d'Hergé. Alors on sait bien que ce sera jamais le cas pour Hergé, pour Tintin, mais imaginons demain il y a une grosse boîte qui arrive et qui vous dit voilà, je vous ai choisi, je veux que ce soit vous qui repreniez Tintin. Alors après, avec deux options, soit votre style, soit faites comme Hergé.
Il y aura une adaptation forcément, oui, mais si c'est pour faire comme Hergé, est-ce que ça sera intéressant pour nous de le faire? Je crois pas, hein. On sera déçus, on sera des petites mains et on perdra notre plaisir à travailler, je pense.
Bah déjà, je pense que la première chose, le type, je lui demanderais s'il n'a pas picolé, parce que demander à moi de reprendre Tintin, je dis, mais ça va pas mieux, non?
Ou un autre truc.
Alors, je dis Tintin, mais c'est peut-être un autre truc. Je pense notamment à Spirou et Fantasio, qui, voilà, Spirou tout court. Il y a eu plusieurs auteurs qui sont passés par Spirou et en fait, on sent, alors évidemment, une différence dans le dessin, dans l'écriture aussi, mais en même temps, une continuité dans le personnage. C'est-à-dire que le personnage évolue, le dessin évolue, mais il y a quand même un respect finalement de l'œuvre d'origine qui pour moi mûrit un peu et grandit un peu. Mais voilà, si vous êtes dans cette situation de reprendre un...
Et puis Spirou, ils ont joué ça de manière intelligente, c'est-à-dire de faire des hors-série avec des dessinateurs différents à chaque fois. Ça permet d'avoir des histoires, des styles qui s'y prêtent ou pas. C'est assez sympa. Non, Spirou, ça serait...
Puis il faut voir que Spirou, c'est aussi un personnage qui à la base a été créé limite par plusieurs personnes. Il a été créé par Rob Veil, il a été repris c'était JG ou JDM?
JG,
ouais. Et puis Franquin, et puis voilà, c'est un personnage qui est passé de main en main.
Oui, il n'a pas qu'un seul papa. Ouais. Mm.
Donc Spirou, oui, Tintin, non.
Tintin, non, pour le coup.
C'est la réponse.
Ou alors du Tintin, mais pareil, en mode hors série, avec un style propre, voilà, pour essayer de.
C'est
pas de renouveler, mais ouais, de se différencier.
Donner une version à nous, plus un hommage finalement que de reprendre quelque chose.
Je sais que je serais très gêné sur un classique de reprendre vraiment la série officielle. Je serais plutôt sur l'optique de faire soit un détournement, soit un pastiche, un truc comme ça. Mais je me sentirais pas d'aller mettre des chaussures trop grandes pour moi, quoi.
C'est ça.
Et alors, si vous aviez un projet fou, alors un projet en cours qui va arriver, un projet un peu perso, vous avez déjà des choses en tête. Alors j'imagine qu'il y a déjà des commandes, enfin des choses qui vous sont demandées. Je vous laisse nous parler de votre actualité à venir ou des projets rêvés qui vous, voilà, vous aimeriez. On vous dit voilà, budget limité, carte blanche
illimitée.
Bah alors moi déjà par exemple je sors une autre BD dont vous êtes le héros là au mois d'octobre qui est sur un thème western, donc ça c'est un thème on va dire qui me correspond assez bien, donc je suis assez bien là-dessus. Et moi en termes de projet, c'est vrai que j'aimerais bien faire une espèce de western post-apocalyptique mélangeant science-fiction et puis surtout avec une bonne dose de surréalisme type Moebius ou Marc-Antoine Mathieu, voilà.
Ça marche, je prends. Quand ça sort, faut me...
moi, pour ma part, je suis en train de commencer à bosser sur le tome 2 de ma série Vlad. Donc, c'est des strips, là, du coup, des histoires en 4 cases sur l'univers des vampires, des trucs humoristiques. Et après, oui, j'ai des projets en tête. Je ne sais pas encore lesquels je vais faire, mais j'ai un projet d'une BD un petit peu longue qui serait plutôt réaliste sur un univers dans un immeuble avec plein de voisins. Bon, je ne vais pas le raconter. De toute façon, pour l'instant, c'est encore dans ma tête. Donc, je préfère jamais trop en parler. Après, des gros projets que j'aimerais bien faire, moi, il y a plusieurs bouquins que j'aime beaucoup, que j'aimerais beaucoup adapter, notamment des bouquins d'Orwell, de George Orwell, je suis un très grand fan d'Orwell, ou éventuellement de René Fallet, un autre auteur que j'aime beaucoup, mais bon, pour le coup, je crois que c'est absolument impossible à adapter en BD, parce que c'est tellement lié à son écriture, c'est tellement savoureux qu'on y perdrait. Et bon, sinon, après, oui, des projets, j'en ai pas mal, mais bon, en général, j'en parle pas trop tant qu'ils sont pas vraiment lancés, quoi.
Ça marche.
Rémi. Pareil, les projets, tant que c'est pas signé noir sur blanc, et après, on laisse en suspens. C'est les possibilités du multivers, c'est pas touché pour l'instant. Donc ouais, les suites classiques, la suite des Légendes Normandes, de Bric et Broc, toujours de l'illustration pour les jeux de société. Après, peut-être plus des livres à thème, pas des livres dont être le héros, mais des livres avec des petites énigmes, des trucs comme ça, des projets comme ça en suspens. Ouais.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus.
Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
On souhaite une bonne continuité à tous vos projets. Et puis on espère vous retrouver un de ces quatre sur les projets qui vous font un grand plaisir. À la semaine prochaine. Salut.
Salut.
Au revoir.